Radio Kapi. Oh,
Kapi. Babel Pongo Massimango pour les journaux.
Bonjour. À la une, ce nouveau drame dans les territoires de Béni. Une attaque de l'ADF s'est soldée hier par la mort de 10 personnes et l'enlèvement d'une fille à Kokola. La société civile appelle l'armée à plus de vigilance et à tenir compte des alertes de la population. Le reportage de cette édition nous emmène à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. L'absence des toilettes dignes de ce nom pousse malades et visiteurs à se couper en deux pour trouver où se soulager. En invité, nous recevons le docteur John Okombe, chef de la sous-coordination de la riposte contre Ebola à Butembo. Avec lui, nous parlons de ce qui est fait pour minimiser le risque de transmission sexuelle du virus d'Ebola par les survivants de cette maladie. Ce journal part du Nord Kivu, 10 morts, parmi lesquels 7 femmes et 3 hommes. C'est le bilan encore provisoire de l'attaque des ADF hier mardi dans la localité de Kokola. Nous sommes à environ 60 km au nord de la ville de Beni, dans le groupement de Babou Bakisiki, territoire de Beni. Il est aussi fait état du vol de plusieurs bétails. C'est Kombi Katondo nous en dit plus sur ce drame.
C'est aux environs de 20h locales d'hier mardi que ce rebelle de l'ADF ont fait incursion en provenance de la partie ouest de cette localité de Kokola, renseigne les sources locales. Contacté, le président de la société civile locale donne un bilan provisoire des 10 personnes tuées, dont 7 femmes et 3 hommes et une fille de 16 ans portée disparue et plusieurs autres biens dont le chèvre et poule ont été pillés par ce rebelle qui aurait opéré pendant plus d'une heure avant de se retirer de ces villages. Nous avons essayé de joindre les autorités militaro-administratives de la région, mais nos efforts jusqu'à présent n'ont pas encore abouti. Pour sa part, la société civile du territoire de Beni appelle l'armée à plus de vigilance à cette période où elle vient de lancer les offensives contre les groupes armés et lui demande de ne pas négliger les alertes lui données par la population sur le mouvement de présumés rebelles dans la zone. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
C'est aussi hier mardi que le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha section de Beni a lancé dans cette ville une campagne dénommée aux mobilisations citoyennes contre les ADF et soutien au FRDC. Selon Isaïe Liko, militant de la Lucha, cette campagne vise à décourager toute personne qui collabore de près ou de loin avec les ADF, mais est aussi pour mobiliser toute la communauté à porter son soutien au FRDC qui mène des opérations de grande envergure contre les groupes armés tant locaux qu'étrangers. Isaïe Liko explique leur démarche au micro de ses combats.
Depuis le 31 de ce mois d'octobre, les FARDC ont lancé des offensives farouches contre les ZDF et nous, en tant que citoyens, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation d'intervenir, d'apporter notre soutien physique, matériel et moral en appuyant directement les militaires qui combattent à la première ligne de front. Voilà pourquoi nous avons premièrement lancé des messages de soutien aux FARDC et la suite que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers la campagne que nous lançons, c'est mardi, soutien à nos forces armées, nous allons récolter des dons, des vivres en nature et en argent pour accompagner directement et physiquement l'armée qui est en train de combattre les ZDF.
En Ituri, des notables et chefs coutumiers de la communauté Lendu recommandent à leurs membres de recourir chaque fois aux institutions établies pour revendiquer leurs droits et pas à la violence. Ils l'ont dit dans les localités de Kobu et Bambou où ils ont été hier dans le cadre de la campagne de sensibilisation qu'ils mènent pour la pacification du territoire de Djougou. Ces leaders communautaires faisaient allusion à l'incident d'avril dernier qui avait abouti au meurtre de 4 commerçants Lendu par des personnes non autrement identifiées, un drame qui avait provoqué la reprise des atrocités dans plusieurs villages de ce territoire. L'appel de Joël Mandé, chef du secteur de Tati, au micro de Jean-Claude Lokidile.
La communauté est toujours colérique pour réclamer son droit. On doit passer par les autorités bien établies au lieu de créer des problèmes. Lui n'est pas à l'État pour réclamer le droit de son frère, le devoir. Si son frère était tombé dans une erreur, c'est lui qui va réclamer. Il n'est pas à l'État. C'est pourquoi on a beaucoup insisté puis ce sont des comportements que nous avons constatés dans notre communauté. Nous sommes là, nous, les chefs de secteur. Il y a des chefs de groupement, il y a les chefs de village. Il y a aussi la justice. Il ne faut pas recourir à la force. Et ça ne vaut pas. Il y a des brigands, nous allons continuer. 600 personnes aujourd'hui, 10 vont écouter. Prochainement, on va continuer à martyrer sur ça. Je passe au fur et à mesure, on va commencer à les écarter de leur mécontentement. Et à un moment donné, ils vont toujours recourir à ce que nous disons.
Pour rappel, six autorités coutumières et d'autres acteurs politiques de cette communauté effectuent depuis plusieurs semaines, avec l'appui de la MONUSCO, une tournée à travers différents villages de Djougou pour sensibiliser la population à la culture de la paix. Comme annoncé en titre, l'hôpital général de Kinshasa n'a quasiment plus de toilettes dignes de ce nom. Conséquence, cet établissement connaît une insalubrité généralisée aux conséquences incalculables. Des malades s'alarment et redoutent le pire si rien n'est fait au plus vite par l'État, propriétaire de cet hôpital dépourvu de subsides. Pascal Massirika était sur le lieu. Son reportage.
Dès l'entrée de l'hôpital, vous êtes accueilli par des odeurs nauséabondes. Un parent dont l'enfant est aux urgences depuis 4 jours raconte le calvaire vécu pour se soulager.
Vers 3 heures du matin, j'avais besoin de me soulager un peu. Quand j'ai posé la question, on me dira non, faut longer le couloir, aller dans ce petit coin-là noir. Quand j'arrive, je trouve quelqu'un tout nu avec un petit pot. J'étais obligé de faire mon petit besoin dans la nature.
Face à cette situation, le médecin directeur reconnaît la vétusté des ouvrages de cet hôpital qui n'avait que 800 lits à sa construction en 1912. Kinshasa comptait moins d'un million d'habitants. Docteur Clément Mbakinsiala affirme que, faute de moyens, les fosses septiques n'ont été curées qu'une seule fois en mai dernier.
Le travail n'est pas à la hauteur parce que les moyens financiers ne suivent pas. Il faut des moyens lourds. Or, nous avons fait ça avec des journaliers qui faisaient ça à la main, donc c'est un problème difficile. Les toilettes existent, mais ce ne sont pas des toilettes 5 étoiles. Les conditions ne sont pas optimales.
Docteur Mbaki dit manquer $800,000 américains pour réhabiliter les sanitaires de cet hôpital. Il croit que le salut viendra du chef de l'État, car selon lui, Félix Tshisekedi a promis d'insérer cet hôpital au programme de ses urgences dans une correspondance lui adressée par le directeur de cabinet Vital Kamere.
Plus de 700 000 personnes, tout âge confondu, à partir d'un an, ont été vaccinées contre le choléra dans 7 zones de santé du Nord Kivu. C'est le bilan préliminaire de la campagne de vaccination de 5 jours clôturée dimanche dernier. Les vaccinateurs ont atteint 31 aires de santé considérées comme à risque sur les 34 initialement prévues pour cette deuxième campagne de vaccination contre le choléra dans la province. Selon le responsable provincial du programme élargi des vaccinations PEV, ce résultat représente tout de même le 94% sont des chiffres attendus. Docteur Stéphane Hans Batei, au micro de Bernard Denyangui.
Nous avons atteint les objectifs puisque la campagne s'est arrêtée le dimanche. On a fait les ratissages le lundi et au jour d'aujourd'hui, nous avons les résultats préliminaires. Nous attendons l'évaluation le samedi pour donner les résultats définitifs. Pratiquement d'une manière partielle, on a vacciné 94,6% contre 94,2% au premier passage, soit 789 817 personnes vaccinées d'une année et plus sur 835 183 attendues. Donc on a atteint largement les objectifs des personnes vaccinées.
Est-ce qu'il y aura une prochaine étape?
La prochaine étape, c'est qu'on va reprendre encore dans 17 aires de santé qu'on a jugées à haut risque aussi, dans les 4 zones, notamment Itebero, Walikale, on reprend aussi Niragongo et Mutuanga.
Au Grand Équateur, nous continuons de parler de ces inondations qui progressent depuis un mois. Des milliers de ménages se sont déplacés vers des localités moins affectées. La plupart des sinistrés qui ont abandonné ainsi champs et récoltes commencent à faire face aux ruptures des provisions et à bien d'autres difficultés. Mais il n'y a jusque-là aucune réaction d'envergure à leur cri de détresse. Nous faisons le point sur la situation avec Paul Richard Malingela.
Le drame consécutif à ces inondations va grandissant, indique des témoins. À Zongoville, frontalière à la capitale centrafricaine, la coordination de la veille humanitaire a dénombré près de 10 000 personnes sans abri. Plusieurs quartiers sont coupés, perturbant ainsi les activités scolaires et socio-économiques. Les aliments deviennent rares, les eaux ayant englouti 17 ponts sur les routes qui approvisionnent la ville. À Mobimbongo, des malades à l'hôpital général sous eau s'entassent au risque de contamination mutuelle, nous a indiqué un habitant. La plupart des paysans riverains le long de l'Ubangi, de Yakoma à Dongo, ont carrément abandonné leurs habitations et champs. Conséquence, des écoles ont fermé, la plupart des ménages sans abri font face actuellement à une pénurie de vivres, y compris des réfugiés centrafricains, a fait savoir Taylor Taïma, président du cadre de concertation de la société civile du Nord Ubangi. Malgré leur cri d'alarme, les populations affectées s'indignent de l'indifférence de leurs autorités, tant provinciales que nationales. Ils déplorent aussi que leurs élus, après avoir reçu leur suffrage, les ont jetés en pâture. Tous craignent le pire avec la poursuite des pluies à la base de ces fortes inondations. Bandaka pour Chamalengue, la radio Okapi.
En politique, ces difficultés pour l'opposition parlementaire de se mettre d'accord sur la répartition de ses 12 postes au bureau et dans différentes commissions de la Chambre basse du Parlement, la conférence des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale décide ainsi de soumettre la question à la plénière. Au cours de sa réunion d'hier, la conférence des présidents a également décidé de soumettre la crise au sein de l'AFDC à la plénière à travers la commission politique défense et sécurité. C'est ce qu'explique le rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Moussaou, au micro de Michel Kifindangoy.
La communication de l'honorable président est revenue aussi sur la situation de l'AFDC. Ici, l'honorable président a essayé de partager avec tous les responsables des groupes parlementaires qui ont levé l'option de pouvoir confier cette question à la plénière, notamment à la commission PAG. La conférence des présidents a aussi noté un désaccord entre les membres de l'opposition en ce qui concerne la répartition des 12 postes qu'ils avaient demandé. C'est ainsi que la conférence des présidents a suggéré que cette question soit remise à la plénière conformément au règlement intérieur. En ce moment-là, je crois qu'il y aura carrément élection. Les uns et les autres seront départagés à partir du vote. Le calendrier de l'élection du rapporteur adjoint sera aussi proposé par le bureau à l'endroit des députés nationaux qui vont se prononcer à ce sujet.
Actualité Afrique Monde.
La Russie réaffirme son soutien aux autorités du Burundi à quelques mois des élections générales qui doivent y être organisées. Critiquée par de nombreux pays au sein de la communauté internationale pour les atteintes aux droits de l'homme et la répression de l'opposition, le Burundi peut compter sur le soutien de la Russie. En témoigne l'accueil réservé hier à Moscou au chef de la diplomatie du Burundi, Ezekiel Nibigira, reçu par son homologue russe Sergei Lavrov. La Chine a lancé le premier satellite soudanais destiné à la recherche dans les domaines militaires, économiques et de la technologie spatiale. L'annonce a été faite hier mardi par le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige le Conseil souverain chargé de superviser la transition au Soudan. Il a dit à Khartoum lors d'une réunion de hauts responsables chargés de la sécurité, sans préciser la date ni le lieu du lancement. Le satellite a pour objectif de développer la recherche dans la technologie spatiale, de recueillir des données et aussi de découvrir des ressources naturelles pour les besoins militaires du pays, a indiqué le Conseil souverain dans un communiqué.
L'invité.
Il s'agit du docteur John Nkombe, chef de la sous-coordination de la riposte contre Ebola à Butembo. Avec lui, nous parlons de ce qui est fait pour minimiser le risque de transmission sexuelle du virus d'Ebola par le survivant de cette maladie. Docteur John Nkombe insiste aussi sur le fait que la communauté doit éviter de stigmatiser les guéris d'Ebola. Il le dit dans cet entretien avec Florida Kambo.
Docteur John Nkombe, bonjour.
Bonjour madame.
Les virus restent dans le sperme de l'homme guéri d'Ebola. Vous pouvez nous expliquer de manière scientifique ce qui se passe pour aboutir à une transmission du virus par voie sexuelle?
Il faudra qu'on comprenne une chose. Il y a des études qui ont été menées avec l'épidémie qu'on a eue en 2014 en Afrique de l'Ouest qui ont prouvé que le virus pouvait demeurer au niveau des gonades plus de 500 jours. Donc c'est sur base de cela qu'il y a un risque de contamination sexuelle. Et à ce sujet, ce n'est pas dit que tous ceux-là qui ont fait Ebola ont la probabilité de transmettre par voie sexuelle Ebola. Et pour corriger cela, il est mis en place un système de suivi des guéris. Et ces guéris-là ont des rendez-vous. Au cours de ces rendez-vous, d'abord, la première des choses avant qu'ils ne soient déchargés dans la communauté pour qu'ils soient réinsérés, il y a toujours des conseils que l'on donne. Et au-delà de ces conseils, on donne aussi des préservatifs pour les hommes qui doivent les utiliser parce qu'ils doivent protéger aussi leur communauté. Et ce projet-là de suivi ne s'arrête pas à 2-3 jours, non. Il a une durée, on va à une année qu'on doit suivre cette personne-là. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas dit que c'est tous les hommes, je voudrais souligner cela. Mais la probabilité, elle est là, mais la proportion aussi, elle est faible.
Qu'est-ce qui peut expliquer que deux hommes, tous guéris d'Ebola, un porte les virus dans son corps et l'autre ne les porte pas?
Ce qu'il faudra savoir, c'est que en tant qu'humains, tous, nous n'avons pas la même immunité. Ça, c'est l'une des choses. Et ce qui est encore avantageux pour le moment, c'est que nous avons les médicaments. Et avec cette prise des médicaments, il y a encore beaucoup d'autres choses que nous arrivons à découvrir. Mais il y a l'aspect immunité de tout un chacun de nous qui peut-être il peut se faire que moi, lorsque je suis exposé et j'ai fait la maladie, et peut-être en ayant 6 mois, je n'ai plus de traces de virus au niveau des gonades. Et une autre personne, ça peut perdurer. Ça dépend d'une personne à une autre et plus loin. Ça peut-être que il faudra peut-être que les études ultérieure nous le prouve. Est-ce que c'est aussi l'aspect du fait que la personne a été exposée, sa charge virale, elle était supérieure? Et sur Ebola, il y a toujours des découvertes qui continuent à se faire. Vous pouvez vous rendre compte, depuis 76, c'est à peine là qu'on a maintenant le médicament. Donc, les recherches se poursuivent et je pense que dans les jours qui viennent, on aura encore beaucoup de choses qu'on va publier sur Ebola et surtout beaucoup plus avant avec cette épidémie qu'on a vécue dans le Nord Kivu.
Alors, quel type de traitement pour les guérir, pour que les virus disparaissent du corps?
Dire qu'il y a un traitement spécifique pour ça, c'est le médicament qu'on a d'abord. C'est quelque chose que nous n'avions pas. Mais il faut savoir que le virus doit être éliminé de l'organisme, mais le médicament qui est là, c'est déjà un plus. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on souligne. Mais vous dire de manière concrète que c'est durant cette période ici qu'on ne va plus les détecter, il y a encore beaucoup d'autres découvertes qu'on est en train de faire.
Et c'est quoi ce médicament?
Il y a des médicaments qui ont été retenus. Dans la panoplie, on a deux médicaments qu'on continue à utiliser, parmi lesquels je peux vous citer le MAP-114 qui est là, qu'on a utilisé. Donc, c'est parmi les médicaments qu'on utilise et qui font la fierté de nos pères qui ont produit ces médicaments et il permet à ce que nos frères et sœurs qui sont dans la communauté puissent sortir vainqueurs d'Ebola.
Alors, il y a une rumeur selon laquelle ces médicaments seraient des stimulants pour des désirs sexuels. Est-ce que c'est vrai?
Je ne pourrais pas dire grand-chose sur les effets du médicament. Ça, il faudra peut-être qu'il y ait des études pour le prouver. Parce que prendre une rumeur comme ça sur la rue et commencer à dire que ça a des effets par rapport aux instincts, non. Ça, je ne pourrais pas le dire. Il faudrait qu'il y ait des preuves scientifiques sur lesquelles on table et on s'est dit, voilà, on a fait des études, voilà ce que ça produit.
La crainte, c'est que n'importe quand, les guéris soient une source d'une nouvelle épidémie d'Ebola. Et quel message, surtout aux guéris, quelle attitude alors à adopter par les guéris d'Ebola et la communauté elle-même?
Je ne voudrais pas qu'on puisse stigmatiser nos frères vainqueurs d'Ebola. Ça, c'est la première des choses qu'il faut qu'on mette en place et qu'on doit dire à notre communauté. Ceux-là qui sont sortis vainqueurs d'Ebola ne doivent pas être stigmatisés. Il y a un programme qui est mis en place pour leur suivi et ils sont suivis de manière régulière. Donc la communauté doit faire confiance aux équipes qui sont là en place en train de faire ce travail-là et la communauté en retour doit savoir mieux accueillir ces vainqueurs d'Ebola.
Docteur John Kombe, Radio Kapu vous remercie d'avoir répondu à ces questions.
Merci madame.
C'est la fin de ce journal. Il a été supervisé par Pele Kipela Mondo, Élisée Tchikota Chivu, mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à vous qui venez de nous suivre.